BW. Droits et libertés.
Cette semaine, nous partons en Angola, à la frontière avec la RDC, dans les environs d'une mine de diamants. Le lieu a été le théâtre d'un bain de sang, c'était fin janvier, et la lutte continue pour réclamer que toute la lumière soit faite sur les auteurs du massacre. Et puis, ils sont jeunes, bien formés et pleins de frustration. Nous parlons cette semaine des jeunes gens de Cisjordanie qui souffrent à la fois du manque de perspective en Palestine, de l'occupation israélienne et de la corruption qui mine l'autorité palestinienne dirigée par Mahmoud Abbas. Au micro, Sandrine Blanchard, bonjour à tous.
Ça peut dire que laissez ces pauvres vivre librement.
Nous supplions les puissants. Laissez vivre les gens librement leur vie. Ils nous ont volé nos ressources naturelles, nos diamants, et maintenant ils veulent nous prendre l'air que nous respirons. Ils s'en prennent à nos diamants et maintenant ils veulent aussi nous tuer, nous.
Julio, ce n'est pas son vrai nom, mais nous l'appellerons comme ça, et vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants, il est plus sûr de taire sa véritable identité. Julio, donc, milite au sein du MPPLT, le mouvement du protectorat portugais de Lunda Tchokwe. Il est originaire de la région isolée du Lunda Norte, c'est dans l'est de l'Angola, à la frontière avec la région du Kasaï, elle située en RDC. Il faut à peu près une journée de voiture pour s'y rendre depuis Luanda, la capitale de l'Angola. Et cette région, c'est une région de mines de diamants. L'organisation pour laquelle milite Julio réclame l'indépendance de la région de Lunda. Les ONG de défense des droits de l'homme comme Human Rights Watch ou Amnesty International dénoncent régulièrement les violations des droits humains qui ont cours dans cette région diamantifère. Les indépendantistes comme Julio affirment que les droits des habitants sont bafoués depuis des décennies par les entreprises minières contrôlées par des hommes riches et puissants, soit depuis la capitale, Luanda, soit depuis l'étranger. Le peuple autochtone, les Tchokwe, se verrait empêché d'utiliser jusqu'aux routes ou aux ponts et d'habiter les zones où se trouvent les concessions minières. Julio raconte qu'ils n'ont pas le droit non plus de cultiver les terres, ni même de pêcher dans les fleuves. D'où la manifestation organisée le 30 janvier dernier, un rassemblement pacifique selon les organisateurs, jusqu'à l'intervention de la police.
La situation en Kafoufo, nous sommes dans un climat d'horreur.
Ici à Kafoufo, c'est la terreur depuis que nous avons osé le 30 janvier organiser une manifestation pour réclamer une amélioration de nos conditions de vie. La police a réprimé notre rassemblement à coups de matraque. Elle a ouvert le feu sur nous comme si nous étions en guerre.
Dans les jours qui ont suivi la manifestation, la police a pourchassé les militants du MPPLT. Plusieurs membres du mouvement, mais aussi des civils qui n'avaient rien à voir avec eux, ont été tués. Leur corps aurait été enterré dans des fosses communes. Julio affirme aussi que de nombreuses personnes ont été arrêtées et que lui-même se trouverait sur une liste noire établie par les forces de sécurité. Des militants de la région signalent de nombreuses disparitions forcées, inexpliquées. L'armée aurait bloqué les accès de la province pour empêcher l'opposition et les observateurs internationaux de se rendre sur place. Évidemment, cette version des faits n'est pas du tout celle présentée par les autorités. Celles-ci affirment que les manifestants du 30 janvier étaient armés et qu'ils auraient attaqué un commissariat. La police aurait alors dû se défendre et malheureusement, la situation se serait détériorée, des heurts s'en seraient ensuivis, bilan 6 morts. Et les mesures de sécurité prises ne l'auraient été qu'en vue d'éviter une nouvelle escalade, c'est ce qu'a expliqué le ministère de l'Intérieur une semaine après les faits. La version de la police est proche de celle-ci. Selon un porte-parole des forces de l'ordre, environ 300 militants du MPPLT auraient tenté de pénétrer de force dans un commissariat. Les policiers se seraient donc trouvés dans une situation de légitime défense. Le bilan communiqué par la police est aussi de 6 morts. L'opposition, elle, a une autre vision des choses, tout comme plusieurs organisations de la société civile. Pour elle, la manifestation était pacifique et légitime, car autorisée, et la violence n'est pas partie des manifestants qui n'étaient pas armés.
Nous réclamons une enquête indépendante qui doit être menée par des experts de l'ONU à qui l'on garantisse l'accès à toutes les zones concernées, tous les témoins. Les responsables de ce massacre doivent rendre des comptes.
Justino Pinto de Andrade, député du parti d'opposition, Casace.
C'est abominable. Et le pire, c'est que le gouvernement fasse comme si ce massacre n'avait pas eu lieu.
Le principal parti d'opposition angolais, l'UNITA, a envoyé une délégation de députés dans la région, mais les autorités leur ont mis des bâtons dans les roues, d'après le président de l'UNITA, Adalberto Costa Junior. Finalement, le 9 février, plusieurs élus de l'opposition ont publié une déclaration commune sur le massacre de Kafounfo qui se serait soldé, selon eux, par 23 morts et 21 blessés. 10 personnes seraient portées disparues. Et selon les opposants, la police aurait ouvert indistinctement le feu sur de simples citoyens. Le lendemain, les signataires revoient même leur bilan à la hausse. Ils parlent désormais d'au moins 28 victimes mortelles, des personnes tuées de façon barbare, atroce et avec sang-froid, ce sont leurs mots, et 18 autres blessés. Un peu plus de 2 semaines après les faits, la diplomate néerlandaise Jeannette Zeppen, qui dirige le bureau de l'Union européenne à Luanda, s'est exprimée elle aussi sur le sujet au micro de l'agence de presse Lusa.
L'Union européenne suit avec beaucoup d'inquiétude la situation des droits de l'homme dans la région diamantifère de l'Angola. Depuis plusieurs années, nous avons entamé un dialogue à ce sujet et maintenant nous voulons savoir ce qui s'est réellement passé dans les zones où se trouvent les mines.
Pour l'instant, Jeannette Zeppen n'a pas été reçue par le ministre de la Justice qui lui a toutefois promis un rendez-vous. Les Nations Unies aussi suivent l'évolution de la situation à Kafounfo et réclament une enquête impartiale, comme le stipule la diplomate onusienne Zahira Virani, en poste en Angola, dans une déclaration envoyée à la Deutsche Welle. Vous êtes toujours à l'écoute de la Deutsche Welle et du magazine Droits et Libertés. Au Proche-Orient, les mouvements palestiniens rivaux se sont mis d'accord récemment pour que des élections soient organisées cette année en Palestine. Le candidat du Fatah sera de nouveau Mahmoud Abbas. Pas sûr que l'octogénaire fasse rêver les jeunes. La rencontre a eu lieu au Caire début février. Des représentants du Fatah et du Hamas ont renoué le dialogue et convenu donc de l'organisation cette année des toutes premières élections palestiniennes depuis plus de 15 ans dans les territoires palestiniens. Ce qui aurait pu passer pour une bonne nouvelle, un motif d'espoir, n'a pas suscité l'engouement des jeunes, car beaucoup, à l'instar de cette habitante de Ramallah, ne croient plus que les choses puissent changer en bien. Elle a 18 ans.
Nope, zero hope for this. I've just lost hope at all, Yanni.
Non, je n'en attends rien. J'ai abandonné tout espoir.
Sur la photo de groupe au Caire, une chose était frappante. Il n'y avait que des hommes, et des hommes plutôt vieux. Le président Mahmoud Abbas a 85 ans et pourtant il se représente à sa propre succession et il sera peut-être même le seul candidat.
I think he shouldn't enter the elections. Our country is supposed to give the young generations.
Il ne devrait pas briguer de nouveaux mandats. Abbas ne nous aide en rien. Notre pays a besoin de se renouveler. Il faut des jeunes. On ne pense pas pareil qu'eux. C'est vraiment injuste si Abbas rempile. Depuis que je suis née, je ne connais que Mahmoud Abbas.
Cette jeune fille étudie, elle n'est pas sûre de trouver un emploi une fois ses diplômes en poche. Plus de 30% des jeunes Palestiniens sont au chômage. Dans la bande de Gaza, le taux est encore plus élevé qu'en Cisjordanie. Khalil Shikaki, politologue.
So the surveys continue to show that the youth in particular.
Nos études d'opinion montrent que les jeunes sont très insatisfaits dans presque tous les domaines qui touchent à la politique, la liberté d'expression, la corruption, l'égalité entre les sexes. C'est dû notamment au fait que les jeunes souhaiteraient une démocratie libre. Alors forcément, le fossé est profond entre leurs aspirations et la réalité.
Les jeunes Palestiniens manquent de liberté dans presque tous les domaines. En Cisjordanie, c'est le Fatah qui est au pouvoir. Dans la bande de Gaza, c'est le Hamas. Les deux mouvements peinent à accepter les critiques. Une situation d'autant plus difficile que les Palestiniens souffrent aussi de l'oppression israélienne. Pour la Palestinienne Ines Abdel Razek, âgée de 32 ans, l'autorité palestinienne du président Abbas n'est pas une amorce de solution. Au contraire, elle fait même partie intégrante du problème.
And the Palestinian Authority today is trapped in the Oslo paradigm. It's trapped in the Oslo regime.
L'autorité palestinienne est prisonnière de l'accord d'Oslo. C'était des accords transitoires. Et maintenant, il remonte à 27 ans. Israël s'en est servi pour établir l'occupation et l'annexion de facto. Les accords d'Oslo sont utiles à Israël et l'autonomie palestinienne en avait besoin pour survivre.
The Oslo regime is very convenient for the Israelis. On the other hand, the Palestinian Authority needs the Oslo regime to exist.
C'est la fin de ce magazine. Merci à vous. Merci aussi à Benjamin Hama pour les sons du Proche-Orient et à Antonio Cascais pour ceux d'Angola. Pour podcaster Droits et Libertés, rendez-vous sur notre site internet dw.com/français dans la rubrique Nos podcasts. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien.